Salut, je suis pasteur Tony Alamo. Nous sommes en train de lire la Bible tout entière, mais à présent le Seigneur m'a amené à faire un détour pendant 2 jours, quelques jours de toutes les façons, afin que nous puissions lire quelques traités, quelques littératures évangéliques que j'ai écrites. Et ce soir, nous allons lire Ossements desséchés. C'est l'un des pamphlets sur mon témoignage. Il y aura un autre qui a été écrit intitulé Signes des temps. Mais ce soir, nous allons nous appesantir sur Ossements desséchés. Et en même temps, nous avons ici quelques lettres ou réponses, et sans tarder, nous allons maintenant au trône du Seigneur pour lui demander de déverser son onction extérieure sur cette dévotion, sur cette cassette. Dieu le Père, nous t'aimons et nous te louons et t'adorons. Nous t'adorons parce que tu es Dieu, tu es Esprit, l'Esprit Saint, et lorsque Jésus était sorti de l'eau, Seigneur Jésus, l'Esprit Saint s'est reposé sur toi, et tu étais devenu le véritable témoin primordial de tous ceux qui sont en train de témoigner maintenant sur la surface de la terre. Le Saint-Esprit t'a conduit dans le désert pour montrer que tu es plus puissant que Satan pour être tenté. Et tu as passé le test haut la main. Satan savait qu'il avait rencontré celui qui était plus que son égal à ce jour. Seigneur, c'était l'Esprit Saint qui t'a donné l'onction extérieure pour être dans le ministère, et nous en avons besoin. Cette onction extérieure qui est le baptême du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, dit la parole. Et la puissance ou pouvoir de faire quoi ? Cela veut dire que vous recevrez le pouvoir d'être dans le ministère. Vous recevrez mon pouvoir sur vous. Mes paroles rempliront votre bouche, et ça sera mon ministère au lieu du vôtre. Ce sera mon œuvre, l'œuvre de Dieu, au lieu de la vôtre. Mais vous serez mon temple et mon vaisseau de choix dans lequel je vivrai, et à travers lequel j'œuvrerai, dit le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut que tout le monde puisse faire. Il veut que tout le monde soit sauvé, et ensuite soit également rempli de l'onction extérieure. Père, au moment de notre salut, nous recevrons l'onction extérieure. Et ce n'est que lorsque nous recevrons l'onction extérieure que nous aurons le pouvoir de dispenser ta parole, parce que c'est toi, sur nous, qui l'accomplis. Je demande, Seigneur, que tu prennes ma relève, moi qui suis ton vaisseau, afin que toutes les choses qui seront dites, Seigneur, aucune d'elles ne vienne de moi, mais aussi le témoignage que tu m'as donné, que celui qui vienne de l'Esprit, qu'il soit oint de l'Esprit Saint. Ouvre tout esprit, toute âme, toute pensée pour recevoir ce témoignage puissant. Ouvre la pensée spirituelle de gens pour les amener à croire au nom de Jésus, pour que leurs âmes soient sauvées et que l'Église soit édifiée, fortifiée et encouragée. J'ai prié ainsi au nom de puissant de Jésus et que tout le monde dise Amen. Tout le monde, Amen. Pasteur Alamo, bien, maintenant d'où vient la première lettre ? Sharon, elle vient d'Annandale, Virginie. Pasteur Alamo, d'accord, vas-y et lis-la, s'il te plaît. Sharon, monsieur, j'ai écouté votre émission merveilleuse à la radio tôt ce matin sur WWCR. Je vous remercie de votre enseignement et je vous bénis d'être passé à l'antenne. Cordialement votre, lettre signée Marc d'Annandale, Virginie. Pasteur Alamo, bien, c'est exact. Nous avons une émission de radio captée partout dans le monde, rien que sur 1 ou 3 stations en Inde ou en Afrique. Le nombre des auditeurs à qui nous sommes en train de dispenser l'évangile atteint plus d'1,5 milliard. Et cela juste dans ces 2 parties du globe, d'après le rapport qui m'est parvenu. Et nous sommes dans tous les coins du monde à la radio. Et si vous aimeriez avoir les heures et les stations auxquelles nous diffusons sur votre région, veuillez nous joindre par téléphone ou par courrier électronique en nous écrivant maintenant. Vous pouvez leur donner l'adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone, ainsi que l'adresse postale, afin que vous, chers auditeurs et auditrices, puissiez nous écrire. D'accord ? Sharon, oui. Pasteur Alamo. Bien, vas-y. Sharon, pour nous contacter par courrier électronique, visitez notre site d'internet qui est alamoministries.com. Pasteur Alamo, c'est donc alamoministries.com et ensuite, Sharon, notre ligne de renseignement et de prière ouverte 24h/24 est la suivante. Indicatif de zone 479 782 73 70. Pasteur Alamo, envoyez-nous juste un courrier. Sharon, adressez-le à Tony Alamo Christian Ministry Worldwide, boîte postale 6467, Texarkana, Texas 75505, États-Unis d'Amérique. Pasteur Alamo, si vous avez besoin d'une Bible, vous en obtiendrez une gratuitement. Si vous avez besoin de la littérature évangélique, si vous aimeriez lire davantage de littérature évangélique, vous pouvez les chercher sur notre site d'internet ou tout simplement nous écrire et cela vous sera envoyé. nous avons le livre intitulé « Le Messie ». Nombreux sont ceux qui ont été sauvés à travers cette œuvre littéraire, et donc donnez-nous juste un coup de fil, ou écrivez-nous, ou contactez-nous par n'importe quel moyen. Bien, c'était donc une bonne chose que de voir les gens qui sont à l'écoute dans nos émissions radiophoniques. Nous vous communiquerons les heures et les stations où vous pouvez les écouter 5 jours par semaine. Bien, vas-y. Sharon, celle-ci vient de Memphis dans le Tennessee. Cher pasteur Tony Alamo, mes salutations en Jésus, frère. Je vous écoute sur WMQM 1600 à Memphis chaque soir, et je crois que vous êtes vraiment l'un des prophètes de fin des temps pour l'Église, le corps du Christ. Mon esprit se réjouit d'entendre Sœur Sharon lire les Écritures et la traduction, suivie des commentaires, et d'entendre la sagesse de vos enseignements complémentaires, frère Tony. Vous nous nourrissez, et je loue Dieu pour votre ministère, et je prie souvent pour vous tous. Je ne vous demanderai pas de m'envoyer quoi que ce soit, parce que je reconnais qu'il en coûte d'expédier de la littérature. Pasteur Alamo, oh, nous voulons lui envoyer tout, et nous voulons qu'il ait quelque chose pour acheter ce dont il a besoin dans la prison. Envoie-lui $10 toutes les 2 semaines. Nous envoyons de l'aide dans les prisons pour femmes et les prisons pour hommes à travers le pays, et ces gens n'ont pas d'argent alors qu'ils ont été faussement emprisonnés, ou même si cela n'aurait pas été le cas, s'ils sont sauvés, c'est bon. Et ensuite, quoi d'autre ? Sharon, mais je dirais qu'ici, dans cette prison, nous n'avons pas vos bulletins mondiaux ni vos bouquins. Les détenus ici ne sont pas autorisés d'écouter cette cassette non plus. Il faut que vous sachiez. Il semble qu'aussitôt que WMQM commence à émettre vos cassettes, une autre station semble brouiller votre émission. C'est comme s'il y avait à tout moment du Black Gospel du sud des USA. Or, cela n'arrive jamais sur cette chaîne jusqu'à ce que votre émission commence. Pasteur Alamo, c'est vrai. C'est que le gouvernement, ce gouvernement antéchrist fait, il brouille les émissions qui semblent réellement avoir du sens pour le grand public, et cela conduit les gens à penser que la station est faible et qu'ils sont branchés sur une mauvaise chaîne. Ainsi, ils chantent sur quelque chose d'autre. On m'a dit plusieurs fois que le mien est l'unique vrai message de l'Évangile qui soit publié, et le gouvernement antéchrist de Rome, nous a combattus avec acharnement. Rome contrôle tous les gouvernements et les médias. Et ils nous ont combattus depuis que j'ai été sauvé, c'est-à-dire durant 41 ans. Lorsque j'étais dans l'industrie cinématographique, dans l'industrie de disques et de la promotion, j'étais le directeur des publicités de plusieurs différentes sortes de produits et directeur de campagnes publicitaires. J'étais responsable de la promotion de toutes sortes de chanteurs et acteurs, et j'étais le chouchou du monde entier. Tout le monde m'aimait à 100%, et le gouvernement était à 100% pour moi. Mais dès que je fus sauvé et commençai à prêcher l'Évangile, je n'ai jamais rien vu de pareil dans ma vie. Je me croyais être ici une fouine, une belette ou une personne rusée durant toute ma vie, mais dès que je fus sauvé, je commençais maintenant à m'occuper des âmes perdues, des toxicomanes, me souciant réellement d'eux, leur prêchant l'Évangile, et ensuite, après leur salut, je les ai fait sortir de la rue et leur ai donné un endroit où loger et où se nourrir. Des habits, des maisons, et ensuite je leur ai enseigné la Bible. Je veux dire, je me suis battu si durement, et les gens m'insultaient les pires noms que vous puissiez imaginer. À en croire les médias et le gouvernement, vous croiriez que j'étais pire qu'Adolf Hitler. Et Adolf Hitler a tué des millions de juifs, mon propre peuple, le peuple juif, et ils ont assassiné des millions de chrétiens au fil des années. Ce sont eux qui ont brûlé les gens, les chrétiens, les vrais chrétiens, sur le bûcher. Et dire qu'ils se disent chrétiens, pouvez-vous croire cela ? Ils ont également emprisonné les gens, et ils les ont tués de différentes façons. Ils mènent des campagnes de dénigrement, dans l'espoir que les gens ne croiront pas par nos messages. C'est pourquoi, vous savez, vous n'avez qu'à lire la Bible pour voir ce que je dis est la vérité, et progresser à partir de là. Mais cet homme dit que la station est 100% claire durant toute la journée et toute la nuit, jusqu'à ce que mon émission commence à être diffusée. Pouvez-vous arriver à comprendre cela ? Bon. Maintenant, si Bozo, le clown, est à l'antenne, vous pouvez l'entendre aussi clairement qu'une cloche, ou si un prêtre catholique est à l'antenne de radio, vous pouvez l'entendre aussi clair qu'une sonnerie. Mais faire venir Tony Alamo à l'antenne, faites attention, dit-il. Nous ne voulons pas qu'il soit écouté. Et ainsi, vous savez, il commence ce truc de la musique du Black Gospel jouant juste derrière tout ce que je dis. Mais vous savez, si vous voulez écouter des messages très clairement et que vous n'êtes pas en prison, c'est possible ? Cet homme se trouve dans la même prison où je fus emprisonné à cause de l'Évangile. Ils ont utilisé toutes sortes de faux témoins contre moi pour faire paraître comme si j'essayais d'escroquer de l'argent au gouvernement. Et pourtant, nous payons des taxes, voire plus de taxes que n'importe qui. Et nous avons épargné le gouvernement des millions et des millions de dollars en délivrant les gens de stupéfiants et de drogues, de la boisson, de meurtres et de tant d'autres choses diverses sous le soleil. Et pourtant, ils nous ont combattus. Mais le Seigneur a déclaré que cela arriverait. Et c'est une bonne chose que j'ai lu ça dans la Bible, parce que je m'étais préparé pour la souffrance, je m'étais préparé à l'affronter. Cela ne s'est pas produit sans que je sache d'avance, à partir de la Bible, que ces choses arriveraient. Le Seigneur a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Amen, n'est-ce pas? Sharon. Amen. Pasteur Alamo, quand cela vous arrive, il est écrit, « Réjouissez-vous avec une grande allégresse ». Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen, n'est-ce pas? Sharon. Amen. Pasteur Alamo. Et donc, s'ils me tuent, m'emprisonnent ou font quoi que ce soit, je sais que j'ai vu Jésus. Il m'est apparu juste devant mes yeux, grandement ouverts, pendant que j'étais bien réveillé. Cela s'est passé dans une pièce très sombre. Et quand je l'ai vu, je désirais partir avec lui dans l'éternité si ardemment que je criais « Jésus ». J'avais le plus grand sourire sur mon visage. Et je savais qu'il connaissait toutes choses à propos de moi, et il savait qu'il y avait des choses que je faisais mal, mais je pouvais sentir qu'en réalité il m'aimait toujours. Et il dit, « Pas maintenant. » Et vous savez quoi? C'était une grande déception. Je n'avais même pas pensé à ma femme, Sue. Je n'avais même pas pensé non plus à qui que ce soit dans l'église. Tout ce que je pensais, « Ô Seigneur, je veux juste être avec toi. » Alors, allez-y, tuez-moi et rendez-moi heureux pour la journée. Des personnes méprisables, espèces de démons, des fouines, des belettes, des personnes rusées et possédées. Rendez-moi heureux pour la journée en me tuant. Vous n'allez pas me faire de la peine si je vais être à l'éternité, parce que je sais que je suis sauvé. Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est capable de me garder jusqu'à ce jour-là, et il n'y a aucune chose que vous n'avez pas fait dans le passé, les biens que vous avez pris auparavant, que Dieu ne m'a rendu en décuple. Mais cette fois-ci, les biens sont plus sous le nom de l'Église, parce que nous rendons compte que vous volez les propriétés appartenant aux chrétiens nés de nouveau, et que vous les mettez en prison, et vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les décourager, et vous vous glorifiez à la télévision. Mais Dieu vient de commencer à déverser sa colère sur la terre, et il est en train de détruire beaucoup de musulmans, et la Bible déclare qu'il va détruire Rome. Et voilà pourquoi je prie pour que vous tous qui êtes musulmans, et je prie pour vous qui êtes catholiques, afin que vous soyez sauvés avant ce jour-là, avant que cela ne vous survienne. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Tant de gens ont peur de ces différentes nations terroristes qui arrivent à exploser un ou deux autobus, ou fusiller une douzaine de personnes ou autres. Mais Dieu dit qu'il va détruire un tiers de la population mondiale d'un seul coup. Et vous voulez savoir quelque chose? Si vous écoutez les informations, vous verrez qu'on parle de la grippe aviaire qui arrive. Mais les médias disent que cette grippe aviaire pourrait facilement tuer un tiers de la population du globe. Il y aura plus de tremblements de terre, plus d'inondations, plus de feux, plus de famines, plus de destructions, plus de cyclones. Et au moment où je vous parle maintenant, il y a un cyclone qui se prépare en direction de la Floride et qui pourrait frapper encore la côte sud vers la Nouvelle-Orléans. Et c'est étonnant, vous savez, après ce que Dieu leur a envoyé, qu'il ait attribué à Mère Nature. Ce n'était pas Mère Nature, car il n'y a pas de Mère Nature, et ce n'était pas une catastrophe naturelle non plus, ces désastres. Si vous lisez la Bible, le Seigneur dit que c'est lui qui les envoie. Vous direz, eh bien on ne sait pas, c'est juste une faille, un défaut. D'après vous, qui a mis ces failles là-bas? C'était le Seigneur qui a créé toutes choses, et il jure qu'il va détruire les gens pour leurs péchés. Aussitôt qu'ils ont achevé d'évacuer l'eau d'inondation dans la ville de Nouvelle-Orléans, ils ont maintenant ouvert des boîtes de nuit, des boîtes de striptease, des bars. Toute chose revient à la normale. C'est pourquoi Dieu fait venir un autre cyclone, et certains d'entre vous qui êtes fiers d'habiter dans la partie centrale des USA, où il n'y a pas d'océan, ou vous qui êtes situés au-dessus de la grande montagne du Colorado, ou dans le Montana ou ailleurs, Dieu cause des tremblements de terre, et il peut faire pleuvoir le feu du ciel. Il détient tout un arsenal de fléaux. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, ça parle de tous ces fléaux dont les médias sont en train de parler. La grippe aviaire, elle arrive la grippe aviaire. Ils sont en train de tuer des poulets au Pakistan. On les tue maintenant dans des pays différents, et on tue plusieurs espèces d'oiseaux, et les oiseaux sont en train de mourir de cette grippe. Et si elle subit une mutation, si les humains l'attrapent, et d'après tout ce qu'on dit, il y a eu déjà plus de 60 personnes qui sont mortes de ça. Et si ça se propage, cette grippe aviaire va tuer des millions et des millions de personnes. Un tiers de la population du globe, soit environ 2 milliards de personnes. Ainsi, ce que vous avez vu jusque-là n'est qu'une goutte d'eau dans le seau, en comparaison de ce qui va arriver. Bien, alors écoutons la suite de cette lettre de cet homme détenu dans la prison FCI de Memphis. J'étais détenu là-bas, j'avais gagné beaucoup d'âmes dans cette prison. C'est là où j'étais emprisonné à cause de l'Évangile. De la même manière, Jésus était en prison au nom de l'Évangile, ainsi que Paul, tous les disciples, plusieurs personnes différentes, les prophètes, les apôtres ont été en prison à cause de l'Évangile, et des millions d'autres personnes ont été dans les prisons catholiques, après qu'ils aient été sauvés. Rappelez-vous que les tout premiers chrétiens furent des juifs, et encore aujourd'hui, il y a tout un groupe de juifs chrétiens comme moi. Mon vrai nom est Bernie Lazar Hoffman, je suis un juif, Sharon est juive. Nous sommes des chrétiens juifs, des chrétiens hébreux, tout comme Jésus était un hébreu, mais lui il était chrétien. Il était Christ, le chrétien, et nous devons être dans son corps, sinon nous n'allons pas entrer au ciel. Achevons la lettre. Sharon, veuillez prier que le Seigneur guérisse mon dos. J'éprouve d'énormes douleurs, et le personnel médical dit qu'il ne peut rien faire car il s'agit de la détérioration de la zone C5 et C6 de la colonne vertébrale. Le Seigneur m'a formé dans le ventre de ma mère, et je sais qu'il peut et va me guérir. Pasteur Alamo, absolument. Sharon, frère Tony, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit en 1973 et prié en langue jusqu'aujourd'hui. Merci Jésus. Pasteur Alamo, c'est juste, la chose la plus importante à propos du baptême avec l'Esprit Saint est l'Esprit d'onction qui nous rend capables d'enseigner, de prêcher et d'enseigner l'Évangile et non juste parler en langue. Quant aux nouvelles langues, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais le Seigneur veut œuvrer en nous et aux autres, à travers nous. Et nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour avoir le pouvoir de le faire. Rappelez-vous, après avoir reçu le baptême de l'Esprit-Saint, vous aurez le pouvoir d'œuvrer dans le ministère, non juste le pouvoir de parler en langue. J'ai toujours cru que c'était une chose si idiote de ne parler qu'en nouvelle langue. Il doit y avoir une raison de plus pour être loin de l'Esprit-Saint, mais il y en a une effectivement, c'est l'onction extérieure de dispenser l'Évangile à ceux qui sont perdus et à l'Église. Comme je suis en train de le faire en ce moment même, plutôt comme le Seigneur est en train de le faire à travers moi en ce moment. D'accord, alors quoi d'autre? Sharon, le Seigneur a permis que je sois mis en prison 3 fois depuis cette époque-là. D'abord en 1973 durant 3 ans, ensuite en 1983 durant 7 ans. Lorsque j'étais sorti de prison en 1986, le Seigneur m'a béni lorsque je me suis lancé dans les affaires d'Internet. J'étais devenu fournisseur de services d'Internet et je gagnais bien ma vie. Le fonctionnaire de liberté conditionnelle au Texas n'a pas aimé le fait que j'étais mon propre patron dans les affaires. Il a dit qu'il me mettrait de nouveau en prison, l'endroit où je méritais d'être. 2 de mes abonnés ont glissé la pornographie d'enfants sur mon serveur à mon insu. Le 10 juin 1998, les agents armés de la douane américaine ont fait un raid sur mon entreprise et ma maison. Ils avaient tout saisi et m'ont inculpé presque 2 ans plus tard. Le procureur fédéral m'a dit que si je ne plaidais pas coupable, ma femme serait également inculpée. Je n'ai pas pu supporter l'idée de voir ma femme aller en prison. C'est pourquoi j'ai plaidé coupable, bien que je ne le sois pas. Pasteur Alamo. Oui, j'ai dit aux gens du monde au sujet de ces tactiques antéchrist. C'est ce que fait le gouvernement catholique romain, ce gouvernement antéchrist, et on ne me croit pas. Mais la majorité du grand public connaît cela. Et je crois sans aucun doute que le gouvernement romain veut que tout le monde puisse perdre confiance aux États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que nous avons eu de tels présidents fous et dingues et une telle corruption au sein des administrations de nos présidents. Et c'est pour ça que je prie également pour ces présidents-là. Je prie pour eux parce que je sais qu'ils iront en enfer, dans le lac de feu, s'ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup parmi eux à qui j'ai témoigné l'Évangile sont déjà morts. Bien, ensuite quoi ? Sharon, ils m'ont condamné à 17 ans et demi de prison qui a pris effet en date du 20 juin 2001. Pasteur Alamo, peut-être vous demandez-vous à qui j'ai témoigné l'Évangile. Il s'agit bien du président Reagan, du président Bush, du président Clinton, Jimmy Carter et son frère Billy Carter. Billy et moi étions devenus de très bons amis. Il avait l'habitude de venir tout le temps dans notre boutique de Nashville, dans le Tennessee, où il faisait des achats, et il voulait ouvrir l'une de nos boutiques, à Atlanta, Georgie. J'ai rendu le témoignage de l'Évangile à tous les présidents durant les 41 dernières années, et ainsi qu'à toutes leurs administrations. Alors quoi d'autre ? Sharon, ça prend 14 ans et 10 mois pour acquitter une personne qui a été condamnée à 17 ans et demi de prison. Pour ce faire, il me faut encore attendre 9 ans et 8 mois. Ma femme est restée fidèle envers moi, nous n'avons pas d'enfants, mais c'est toujours difficile pour elle dans la mesure où elle souffre d'épilepsie depuis l'enfance et ne peut pas conduire ni avoir un emploi normal. Elle se débrouille à peine grâce à l'aide sociale de $450 par mois qu'elle reçoit à cause de son invalidité. Le gouvernement fait de cette dépense sur mon compte de l'aide sociale, non le sien, parce qu'elle n'en a jamais eu. C'est tout à fait simple, si elle me divorçait, le revenu serait bloqué et elle perdrait notre maison et toute autre chose. Je reçois ses courriers tous les 2 mois, elle dit qu'elle m'aime toujours et qu'elle va m'attendre. Compte tenu de ma douleur de dos et du déclin de ma santé en général, qui est en train de se détériorer très rapidement, et du mauvais soin médical ici, je ne pourrai rester vivant pendant 9 ans supplémentaires. Frère Tony, tout ce que je vous demande est que vous et Sharon puissiez prier pour Rosie et moi, afin que le Seigneur puisse nous fortifier pour persévérer jusqu'à la fin. Pasteur Alamo, si vous me passez l'adresse de Rosie, nous lui enverrons de la littérature et la Bible. S'il en a besoin, nous lui enverrons aussi des vêtements, des provisions alimentaires ou autres, nous l'aiderons certainement. Nous aidons les gens et les gens qui sont en prison. Ceux d'entre vous qui êtes en prison et ceux qui ont des bien-aimés en prison, si vous n'avez pas de cadeaux de Noël pendant la période de Noël, nous envoyons des cadeaux de Noël aux personnes pauvres qui n'ont pas le moyen d'acheter des cadeaux de Noël pour leurs bien-aimés, pour leurs enfants. Et la chose à faire est de mentionner leur taille d'habit et leur sexe, c'est-à-dire s'il s'agit d'une jeune fille, d'un homme, d'une femme, d'une fillette ou d'un petit garçon. Vous indiquez tout cela, et nous ne sommes pas toujours en mesure de vous donner le type de jouet que vous voulez, mais il est certain que nous en avons de très jolis. Cela ne coûte rien, nous voulons juste le faire. Et je connais ce que c'est que d'être en prison lorsque j'étais innocemment emprisonné. J'ai vu pas mal de gens là-bas en prison qui avaient du chagrin pour leurs femmes et leurs enfants parce qu'ils n'avaient rien à leur donner. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à dire aux gens dans l'église de leur envoyer ces cadeaux. Et même si ce n'est pas Noël, si c'est leur anniversaire ou n'importe quelle autre occasion. Et nous aimons leur dire que cela vient du Seigneur. Mais cela vient aussi de leur papa ou de leur maman qui est en prison. D'accord. Ensuite, quoi d'autre ? Ainsi donc, veuillez nous écrire et vous verrez ce qu'il va se passer. Sharon, je vous remercie beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de sa vérité et sa paix pour toujours. Nous prions pour votre ministère ici. Au cas où je mourrai avant que nous puissions nous rencontrer sur cette terre, je te verrai alors dans cette cité glorieuse et la gloire du Seigneur remplira la terre, tout comme les eaux couvrent les mers, avec beaucoup d'amour en Christ. Lettre signée, Randy, originaire de Memphis, Tennessee. Pasteur Alamo, gloire au Seigneur, Randy. Nous t'avons bien suivi et te soutenons. Bien, alors, as-tu quelque chose d'autre ? Sharon, oui. Pasteur Alamo, d'accord. Sharon, en provenance de la Zambie, Afrique. Cher Pasteur Tony Alamo, veuillez recevoir mes salutations spéciales au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tout, y compris le ministère, va bien chez vous. Pasteur, votre littérature et cassette ont le pouvoir non seulement d'informer, mais aussi de réformer et de transformer les vies des gens ici. Au travers l'influence de votre littérature et vos cassettes, d'innombrables personnes ont reçu une nouvelle force et une nouvelle détermination, ainsi qu'une espérance sûre dans la vie. Pasteur Alamo, ces messages proviennent du Seigneur. Cependant, le Seigneur m'utilise seulement, comment dirais-je, comme une personne pour les écrire dès qu'il me les donne. Bien sûr, c'est pourquoi les gens sont fortifiés et trouvent l'immortalité à travers la littérature et obtiennent la connaissance du chemin étroit et resserré qui peut vous permettre d'entrer dans le royaume du ciel. Bien, et quoi d'autre ? Sharon, en plus, ils ont amené la paix et l'assurance de la vie éternelle, ainsi que des bénédictions. Le contenu est biblique, précieux, vrai, d'importance profonde et riche en sagesse et connaissance. Vos cassettes et littérature nous servent à la fois d'encouragement et des outils pour lire la Bible avec confiance et compréhension. Vous nous dirigez vers le sujet suprême de la Bible, Jésus-Christ et le salut que Dieu offre à travers lui. Que Dieu soit loué pour cela. Enfin, veuillez nous envoyer, s'il vous plaît, des cassettes, de la littérature, des Bibles, ainsi que des cassettes de musique chrétienne produites par votre équipe. Tout ce que vous déversez en nous, nous le déverserons aux autres. Sincèrement, le vôtre en Jésus-Christ. Lettre signée, Lupamba, originaire de Momsa, Zambie, Afrique. Pasteur Alomo. Loué soit le Seigneur. Donne-lui tout ce qu'il veut. D'accord. Puis quoi d'autre? Sharon, une lettre venant d'Omaha, Nebraska. Cher pasteur Alamo, mes salutations dans le précieux et merveilleux nom de Jésus le Christ. J'exprime ma gratitude et mes remerciements pour m'avoir envoyé vos messages évangéliques qui sont remplis de l'esprit de vérité et des paroles de lumière. Le prophète doit rester fidèle et sincère au message. Quand Jésus s'est tenu debout dans la synagogue pour lire dans le livre d'Ésaïe, il y a eu quelque chose de puissant qui s'est ému dans son cœur. À partir des paroles du prophète est venue la révélation de son but et sa mission, à savoir guérir les cœurs brisés, libérer les captifs de leur esclavage du péché, sauver l'ombre de la mort ceux qui périssent, proclamer l'avènement du royaume de Dieu pour sa gloire uniquement. Lettre signée, Martin, originaire d'Omaha, Nebraska. Pasteur Alamo, loué soit le Seigneur. À présent, voici mon témoignage intitulé « Ossements desséchés ». Et j'ai donné mon témoignage plusieurs fois dans l'Église, et ça serait tout à fait merveilleux, vous savez, si les gens à qui le Seigneur s'est réellement manifesté donnaient leur témoignage afin que les gens puissent voir comment Dieu se manifeste. Tant de gens qui sont devenus pasteurs aujourd'hui ont pourtant simplement décidé dans leur cœur que c'est un type d'emploi prestigieux et font beaucoup d'argent, car c'est pour de l'argent qu'ils sont dans le ministère. Si le Seigneur vous avait véritablement appelé dans le ministère, vous n'y seriez pas du tout pour l'argent. Quant à nous, l'argent qui nous parvient est dépensé pour la littérature et ainsi de suite. C'est ainsi que je n'ai pas vraiment besoin d'entendre des témoignages de gens qui ont choisi de devenir pasteurs parce qu'ils veulent faire de l'argent ou parce qu'ils veulent être respectés dans la communauté ou pour n'importe quelle autre raison. La dernière chose que je voulais faire était d'entrer dans le ministère, particulièrement devenir pasteur. Je serai la dernière personne en train d'enseigner la Bible ou prêcher. Ainsi donc, nous vous laisserons l'entendre tel qu'il a été écrit. Le Seigneur m'a inspiré dans l'écriture de cette œuvre littéraire en question, lorsque j'étais en prison, à cause de l'Évangile. D'accord, vas-y maintenant. Ossements desséchés. Sharon, le prophète de l'Ancien Testament Ézéchiel reçut de Dieu une vision. Il vit une vallée d'ossements desséchés, représentant la mort spirituelle d'Israël et du monde. Pasteur Alamo, vous voyez, le monde est à présent comme une pile d'ossements desséchés. C'est-à-dire qu'ils sont morts et ont besoin d'avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut entrer dans cette pile d'ossements desséchés, tout comme cela s'est produit dans le livre d'Ézéchiel. Cela se fera de sorte qu'ils puissent se lever dans l'Esprit et soient ressuscités d'entre les morts. Et comme Dieu vit en nous, il peut accomplir son œuvre en vous et à travers vous. Bien, vas-y. Sharon, la vision annonçait la première venue du Christ, sa prédication des évangiles et ce qui en résulta, la première résurrection d'entre les morts pour atteindre la vie éternelle, pour tous ceux qui croient en, je cite, « la parole du Seigneur ». Fin de citation. Dieu dit à Ézéchiel, je cite, « Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ces morts spirituelles peuvent-ils vivre ?» Fin de citation. Ézéchiel répondit, je cite, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Fin de citation. Dieu s'adressa de nouveau au prophète en disant, je cite, « Prophétise sur ces eaux. » Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit, et vous vivrez. Fin de citation. Israël savait qu'il était complètement mort en tant que nation. Il est encore désespérément divisé même aujourd'hui. Mais Dieu dit à Ézéchiel qu'il créerait une autre nation, encore plus grande que le premier Israël, qui ne cessait de pécher. Pasteur Alamo. C'est juste, et cette nation est appelée la Nouvelle Jérusalem. Elle est composée de ceux d'entre nous qui sommes renés de l'Esprit, nous sommes le véritable corps du Christ. Ensuite quoi? Sharon, le second Israël consisterait en un peuple venant de chaque nation du monde, un reste de Juifs élus, et une multitude de gentils greffés à la vraie vigne. Il serait la grande et sainte nation de ceux qui sont ressuscités de la vie mortelle du péché pour atteindre la vie éternelle. Il ne serait jamais divisé contre Dieu. Ceci fut la première résurrection à travers le pouvoir de résurrection du Christ. En 1964, avant ma première résurrection à travers le Christ, moi, Bernie Hoffman, également connu sous le nom de Tony Alamo, était connu comme pécheur et impie et était totalement dépourvu de quelque connaissance que ce fût de Dieu. Je n'avais aucune idée que Dieu existait. Les paroles de Dieu étaient pour moi des fables et des mythes, et je n'arrivais pas à comprendre comment les gens pouvaient croire en Dieu ou en son Fils. Je ne pouvais pas croire ceux qui disaient avoir foi en Dieu, parce qu'ils étaient des hypocrites. Ils péchaient autant ou davantage que moi. Je le sais car j'étais souvent en leur compagnie. Nous étions tous une bande d'ossements morts, desséchés. Je me fâchais quand on essayait de me convertir au christianisme, parce que pour moi la Bible n'était qu'une perte de temps. La vie que je menais ne me laissait aucun loisir pour des jeux ou des contes de fées. Dans l'industrie du marketing, j'étais considéré comme le numéro un. J'étais responsable du succès de la carrière de nombreux chanteurs et acteurs célèbres à travers le monde, ainsi que du succès de la publicité de plusieurs produits domestiques très connus. Mon pire cauchemar était de me voir converti et distribuant des pamphlets sur Jésus au coin des rues, de vivre dans une mission, dans un quartier de clochards, à prêcher l'évangile et à organiser la distribution de repas pour nourrir les affamés. Dans le milieu des années 60, le monde ne m'apparaissait pas en très bon état. Je n'aimais pas les drogues ni les gens sales à la morale ordurière, et je détestais l'effet du mouvement hippie sur Hollywood, le quartier Sunset Strip et le monde. Quant à moi, je n'étais pas un saint. Les péchés que les gens commettaient ne me dérangeaient pas, du moment qu'ils ne les commettaient pas devant des familles avec enfants. Pour moi, le monde était fini, mort, sec, odieux et lugubre. Rien n'avait plus de valeur. Je crois que les autres à travers le monde le savaient autant que moi et s'adonnaient aux drogues pour essayer d'échapper à cette réalité. Les églises étaient hypocrites. Tout le monde semblait le savoir également. Le monde entier était mort dans ses péchés et ses offenses. Le monde était une énorme vallée d'ossements desséchés, tout comme ceux qu'avait vu Ézéchiel. J'ai rencontré Jésus dans un bureau de Beverly Hills d'une manière très surnaturelle. Personne ne peut s'imaginer à quel point je fus terrifié, mais également heureux, quand Dieu me prouva que lui-même et son Fils existaient vraiment. C'est avec une vive émotion que je fis l'expérience de son puissant Esprit Saint, et que j'entendis sa puissante voix envahir chaque partie de mon corps, comme si j'étais un filtre à travers lequel les paroles allaient et venaient. Sa présence était glorieuse et chaleureuse, son esprit se posait pesamment sur moi, telle la forte poigne de la main de Dieu. Et ses paroles me dirent, je cite, « Lève-toi, parle du Seigneur Jésus-Christ aux gens dans cette pièce, et dis-leur qu'il reviendra de nouveau sur terre, où tu mourras certainement. » Fin de citation. Quand son esprit vint dans le bureau et se posa sur moi, il me fut donné de ressentir son inexprimable, incroyable intelligence. Il était chaque atome et molécule, il était l'air, il savait tout du passé et tout ce qui allait arriver dans le futur. J'étais mal à l'aise car je savais qu'il savait tout ce que j'avais à faire. Puis, il me montra que le ciel et l'enfer existent vraiment. Je savais dans lequel des deux j'aboutirais si je n'obéissais pas à sa demande. Et ce n'était pas au ciel. Même si cela me terrifiait, il était aussi merveilleux de savoir que Dieu était vrai et vivant, et était tout ce que les prophètes et les apôtres ont dit qu'il était. Il n'avait aucunement changé depuis les jours où il créa les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. J'ai su immédiatement que je le craindrais, admirerais, respecterais, aimerais et servirais toujours. J'ai su que j'étais déterminé à vivre, être persécuté et mourir pour lui, et que je le ferais de plein gré et en toute joie. Après que Dieu m'eut laissé sortir de ce bureau, je commençai à lui demander, je cite, « Que voulez-vous que je fasse ? Je ferai tout ce que vous me demanderez. » Fin de citation. Je n'obtins aucune réponse. Alors je pensais qu'il voulait que j'aille à l'église. Je pensais que la plus grande serait la meilleure, et donc j'y allais donc, et ne le trouvais pas. Je visitais d'autres églises, mais il ne s'y trouvait pas non plus. Puis je lus des livres dont la couverture affichait des photos d'hommes qui avaient l'air sages et pieux, avec de longues barbes et revêtus d'habits religieux. Mais je savais que le livre avait tort, car il disait qu'il ne fallait pas craindre Dieu, que Dieu ne menace pas les gens et qu'on peut pécher sans aller en enfer. Je ne me préoccupais nullement d'un tel Dieu. Ce qui me préoccupait était la découverte du Dieu qui me menaçait, du Dieu qui m'avait montré le ciel et l'enfer, et me fit taire ce qu'aucun autre ne pourrait m'obliger à faire, ce que je n'avais jamais voulu faire. Je n'avais jamais pensé que la vérité pouvait se trouver dans la Bible, parce qu'on en trouve tellement partout. J'avais le sentiment que quoi que ce soit qui était populaire auprès du public ne pouvait être intelligent, puisque je croyais que les gens étaient tous stupides. Je me mis finalement à la lecture de la Bible et y trouvai le plan du salut ainsi que les instructions pour atteindre la vie éternelle qui disait comment croître dans le Christ et devenir spirituellement un majeur gagneur d'âmes en son nom. Quand je commençais à lire la Bible, je sentis le même pouvoir de Dieu se posant sur moi que j'avais ressenti dans ce bureau de Beverly Hills. Dieu me montra alors d'autres visions du ciel et de l'enfer. J'implorai Dieu, je cite, « Seigneur, ne m'envoie pas en enfer. » Fin de citation. Je vis ensuite le ciel et ressentis la paix. Malgré que je fus spirituellement aveugle, nu et infime, je dis à Dieu que j'acceptais de demeurer aveugle, nu et insignifiant, si je pouvais seulement ressentir pour toujours cette paix céleste. Je vis l'enfer une fois de plus et implorai Dieu de nouveau de m'accorder sa pitié et son pardon. Puis le pouvoir du Père, du Fils et du Saint-Esprit entrèrent dans mon corps mortel, par ma foi en Jésus et dans le sang qu'il versa pour moi, ainsi que par ma foi dans les paroles de Dieu que j'entendis et auxquelles j'obéis. Je sentis chacun des péchés que j'ai commis se dégager de mon âme. Je me sentis propre et pur. Quelque chose de très merveilleux s'était arrivé et avait été accompli en moi, et pour moi par le Christ Jésus. Je cite, « Le Dieu Saint d'Israël ». Fin de citation. J'étais si heureux d'être libéré du péché et d'avoir ce nouveau pouvoir qui m'empêchait de pécher, que je voulais en parler au monde entier, afin que tous puissent également le connaître et posséder la vie éternelle. Même après plus de 31 ans dans le ministère du Christ, je sens la moelle spirituelle se déverser du haut du ciel, de ses eaux jadis si desséchées, chaque fois que je lis la Bible. Pasteur Alamo, ça fait maintenant 41 ans. Pourtant, je sens toujours le même esprit me nourrissant, me rendant spirituellement fort dans le Seigneur. Ensuite quoi ? Sharon, la parole de Dieu a posé des muscles spirituels autour de ces eaux autrefois desséchées, les recouvrant de la chair et de la peau d'une armature spirituelle. Chaque parole de Dieu a greffé davantage le Christ dans mon cœur. Je peux encore sentir chaque parole de Dieu, respirer le souffle de l'Esprit Saint en mon âme, me donnant le pouvoir de rester debout et d'éteindre tous les dards ardents que Satan m'a envoyés au fil des ans. Je sais davantage chaque jour que, je cite, « Nous sommes plus que vainqueurs », fin de citation, dans le Christ Jésus, et nous avons, je cite, « tout pleinement confiance en lui », fin de citation. Je sais également à quel point il importe d'observer chaque parole de Jésus qui dit, quelques instants avant son ascension au ciel dans un nuage, je cite, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création », fin de citation. Prêchez à chaque ossement desséché, à ceux qui sont morts spirituellement afin qu'ils puissent, je cite, « écouter la parole de l'Éternel », fin de citation. Je cite, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné », fin de citation. Si vous êtes comme moi et préféreriez ne pas être damné, mais plutôt être sauvé, adressez à Dieu cette prière. Sharon, mon Seigneur et mon Dieu. Pasteur Alamo, d'accord, voici la prière. Veuillez la réciter et qu'elle vienne de la profondeur de votre cœur et âme. Donc, ce que je veux dire par là, vous pouvez crier à Dieu une autre prière. Vous savez aussi longtemps que vous dites approximativement ces mêmes paroles, celle-ci est en fait une version condensée de la manière à atteindre Dieu, et il vous écoutera. La Bible dit que quiconque qui invoque le Seigneur, peu importe qui vous êtes, si vous l'invoquez, il vous entendra, il vous exaucera, et ainsi donc, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. C'est pourquoi il faut tout simplement l'invoquer avec ces paroles. Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant, et je crois qu'il est mort sur la croix et a versé son sang précieux pour le pardon de tous mes sales péchés. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, lave-moi de l'impureté de tous mes péchés dans ton sang précieux. Tu ne me rejetteras pas, Seigneur Jésus. Tu sauveras mon âme. Je le sais car ta parole sainte est infaillible le dit. Par conséquent, je sais que tu m'as entendu, parce que Dieu dit qu'il t'écoute. Il est comme de l'air. Chaque molécule est Dieu. Je sais que tu m'as entendu et je sais que tu m'as répondu. Je sais que tu m'as sauvé. Gloire au Seigneur. Maintenant, veuillez soulever vos mains en haut et louer le Seigneur, où que vous soyez. Si vous êtes en train de conduire, garez votre voiture ou votre autobus ou autre, et n'ayez pas honte du Seigneur. Parce que si vous avez honte de lui ici-bas, il aura honte de vous devant son Père et ses saints anges dans le royaume du ciel. C'est pourquoi, mettez-vous tout simplement à genoux et commencez juste à louer et remercier le Seigneur. Il n'est pas nécessaire de se mettre à genoux, vous pouvez juste rester assis dans votre véhicule, à partir de là juste glorifier et remercier Jésus, et laissez le Saint-Esprit vous pénétrer. Le Saint-Esprit est le Dieu Trin, l'entièreté de la Trinité divine. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Christ est la plénitude. Il est Dieu Tout-Puissant, car il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont inséparables. Que le Seigneur soit loué. Bien, maintenant que vous êtes sauvés, vous avez besoin de prier pour obtenir le baptême du Saint-Esprit dont je vous ai parlé plus tôt dans cette émission. Vous devez savoir que Dieu désire plus que vous-même que vous ayez le baptême de l'Esprit. Et il dit que vous aurez le pouvoir d'être dans le ministère dès que vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il vous faut lire la Bible, lire la version anglaise de King James, son équivalent en français est la nouvelle version révisée de Louis II, et vous allez commencer à grandir. Mais il y aura peut-être certains jours où il vous semblera comme si vous ne comprenez pas beaucoup ce que vous lisez dans la Bible. Mais si vous priez avant de lire la Bible, « Seigneur, d'où voulez-vous que je lise ? L'Ancien ou le Nouveau Testament ?» Et écoutez sa voix. Sentez l'onction de l'Esprit Saint, et s'il y a une directive, vous allez juste sentir un resserrement en vous disant « Ancien Testament ». Alors, qu'en est-il du Nouveau Testament, Seigneur ? Et ensuite, s'il commence à répondre de son Saint-Esprit, alors je sais que c'est le Nouveau Testament. C'est ce que je fais, moi. Et ensuite, je lui demande, quelle partie du Nouveau Testament ? Dans les 5 premiers livres ? Et parfois elle répondra non, et parfois elle dira oui. Mais si j'entends, plutôt si je ressens un resserrement de mon âme, c'est alors que j'arrive à savoir la réponse. Et quel chapitre ? Le 10e ? C'est à partir du 6e jusqu'au 10e chapitre ? Et je le sens dire, oui, d'accord. Serait-ce le 6e chapitre ? Et il réplique, non. Peut-être il y aura l'apparence d'une onction ici, comme disant, oui, c'est le 6e. Et c'est étonnant, Seigneur. Lorsque je ferme mes yeux, je vois un cercle rond, et il y a une aiguille qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, s'il s'agit d'une réponse affirmative, et ainsi je sais qu'il y aura quelque chose de bon dans le chapitre qu'il m'indique à lire. Et voilà pourquoi, quand je commence à le lire, alors j'obtiens à partir de cela un message fantastique, et ce sera pareil pour vous. Si je lui demande, est-ce le premier livre du Nouveau Testament ? Matthieu, Marc, Luc, Jean ? Des fois, elle répondra non. Et qu'en est-il des Actes des Apôtres, l'Épître aux Romains ? D'où voulez-vous que je lise ? Et je continuerai jusqu'à ce que je sente et vois les aiguilles de l'horloge tourner. Et je sens l'onction de l'Esprit. Et je me mets à lire. Et je lui demande, quel chapitre ? Et demande encore, à partir du 1er jusqu'au 5e chapitre ? Oui, c'est ça. Et ensuite, d'accord. Est-ce que c'est le premier chapitre ? Non. Est-ce que c'est le second ? Peut-être. Le 3e ? Oui. 2e et 3e ? Oh, c'est peut-être le dernier chapitre et le premier chapitre, et le premier et le dernier verset de ce chapitre-là, et le premier chapitre et les premiers versets du chapitre 2. Oui, c'est bien là où je veux que tu lises. C'est tout simplement étonnant, et les gens pensent qu'il est si stupéfiant que Dieu parle. Il nous a donné la faculté de parler, amen ? Lui, Dieu, peut très bien parler lui-même. C'est lui qui a donné la faculté de parler. Si le Seigneur ne m'avait pas parlé, il n'y aurait peut-être aucun autre moyen que je sois sauvé aujourd'hui. Et il y a autre chose de plus que de lire simplement la Bible, car le Seigneur dit que lorsque nous sommes sauvés et gardons ses commandements, il nous donnera le baptême du Saint-Esprit, parce que celui-ci nous donnera le pouvoir de prêcher et d'enseigner. Certains gens disent, « Eh bien, s'il vous donne le pouvoir, alors pourquoi ne vous donne-t-il pas le pouvoir de garder les commandements ?» Quand vous recevrez l'onction intérieure, quand vous devenez sauvé, vous possédez le pouvoir de Dieu en vous de garder les commandements. L'unique chose à comprendre, cependant, est que vous n'avez pas le pouvoir de dispenser la parole. On doit avoir le pouvoir de dispenser et d'enseigner la parole. Amen ? Sharon, amen. Pasteur Alamo, ainsi, voilà pourquoi les gens ne comprennent pas le Seigneur. Donc, lorsque vous recevrez le baptême du Saint-Esprit, vous avez le pouvoir d'enseigner, de prêcher la parole. C'est alors que Dieu va maintenant commencer à œuvrer en vous et au travers de vous, mais de l'autre côté. Si vous êtes un novice, un débutant, si vous êtes tout nouveau dans le ministère, vous ne serez pas en mesure d'enseigner, parce qu'une personne qui enseigne étant novice tombera dans la même condamnation que le diable, et le diable ira en enfer et dans le lac de feu. Car vous ne connaissez pas la parole de Dieu assez bien pour l'enseigner, vous ne pouvez donner votre témoignage, et vous pouvez lire et prier avec les autres, et vous y arriverez. Bien. Maintenant, nous allons lire un tout petit peu les grandes lignes de l'introduction ou l'aperçu d'un livre de Luc. Et à travers notre série intitulée « Lecture de la Bible entière », j'ai déjà achevé le livre de Matthieu, Marc et Jean. Et maintenant, voici le résumé du livre de Luc. Vas-y. Charonne. Tableau général. Luc était un médecin et un historien. Il a présenté Jésus non seulement comme le Fils du Dieu vivant, lui-même, mais aussi comme un homme qui s'occupait des gens faibles, des malades et des opprimés. Un homme qui apportait la guérison aux malades et aux opprimés. Dans la généalogie de Jésus, Luc a fait remonter les ancêtres humains du Seigneur à Adam, le père de la race humaine. Pasteur Alamo. Exact. Vous voyez, parce que Dieu veut que tout le monde sache que Jésus était un être humain, bien qu'il fût engendré par le Saint-Esprit et qu'il avait Dieu en lui, pourtant il était un être humain. Maintenant, lorsque nous acceptons le Seigneur dans nos cœurs, nous sommes toujours des êtres humains. Lui, il était né avec le Saint-Esprit, et nous, au contraire, nous subissons une nouvelle naissance, nous qui sommes avant tout nés hommes, de simples humains. Mais lorsque nous subissons une nouvelle naissance, nous devenons alors nés de nouveau de l'Esprit. Cela signifie que nous avons le même Esprit de Dieu vivant en nous que Jésus, et Dieu le met en nous comme il a mis en Jésus. C'est ainsi que nous devenons maintenant frères du Christ, et nous devenons aussi des fils de Dieu, dit la Bible. Alors, vous pouvez juste imaginer de quel type d'amour le Seigneur a envers les êtres humains pour que nous puissions non seulement avoir le même Esprit qui était en Jésus vivant en nous, mais puissions ensuite également avoir le même Esprit qui se reposa sur Jésus quand il était baptisé d'eau. L'Esprit était descendu sur lui sous forme d'une colombe et l'a baptisé avec le Saint-Esprit et donna à ce corps humain-là le pouvoir d'être dans le ministère. C'est pourquoi quiconque dit que Jésus n'était pas venu comme un humain ou venu dans la chair est un menteur. La raison pour laquelle Dieu veut que vous sachiez qu'il était un homme est d'encourager vous et moi sur le fait qu'il était capable de donner à l'homme Jésus le pouvoir de ne jamais pécher, que nous possédons aussi le même pouvoir en nous de ne pas pécher non plus. Si Dieu est en vous, vous êtes alors capable de faire toutes choses. Amen. Charon. Amen. Pasteur Alamo. Je peux faire toutes choses en Christ. Amen. Charon. Amen. Pasteur Alamo. Et continue donc à lire. Les récits de Luc sur Jésus, qui sont en fait la vérité au sujet de Jésus, ont mis l'accent principal sur ses relations avec des personnes en particulier. Jésus centrait son attention sur les personnes qui étaient souvent ignorées de la société, les femmes, les enfants, les pauvres, les prostituées, les péagers méprisés et les pécheurs de toutes sortes. Jésus accordait le salut, la force et une nouvelle vie spirituelle, la vie éternelle. Il a promis à tout le monde qui croira. Il a promis à tout un chacun dans le monde qu'il rencontre. Mais sa plus grande préoccupation était envers les exclus, les rejetés de la société. Luc met l'accent sur l'humanité et la compassion de Jésus plus que sur tous les autres auteurs de l'Évangile. Son récit a fait bien comprendre que Dieu, à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, étend ses bras d'amour aux personnes mal aimées, aux personnes non aimées de notre monde. Depuis le premier péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu, avec compassion, a désiré et poursuivi la récupération des personnes perdues, des personnes qui ont cru en Satan plutôt qu'en Dieu. Ces personnes ont été brisées et sont perdues. Son amour et préoccupation de les ramener au salut est irrépressible. En œuvrant jusqu'au bout, dans le processus de grandir jusqu'à la plénitude de la stature du Seigneur, nombreux parmi nous découvrent à quel point nos péchés ont été terribles et destructifs. Dès que les niveaux de reniement du Seigneur sont détruits ou enlevés, nous commençons à comprendre à quel point nous étions malades du péché, perdus et brisés. Une personne peut se demander s'il y a de l'espoir pour l'humanité, mais maintenant qu'on est sauvé, on sait qu'il y en a. Ainsi, comment Dieu pourrait s'occuper de nous après tout ce que nous avons fait? En lisant l'Évangile de Luc, nous pouvons recueillir tant d'espérance de la compassion que Dieu a étendue à des personnes qui étaient comme nous. Dieu veut nous montrer combien il nous aime. Peu importe nos péchés commis au passé, il veut jouer un rôle actif dans nos vies. Il veut que cela soit si actif qu'il désire être toute l'activité dans nos vies. Il veut que nous puissions nous renier nous-mêmes, prendre notre croix et être crucifiés, et que nos vies soient mortifiées. Ceci arrive après que nous l'acceptons dans notre cœur et âme. L'Esprit Saint est à l'œuvre en nous, et plus la vie du Seigneur nous pénètre, plus nos vies sont mortifiées. 1. La naissance et la préparation du Sauveur apparaît à partir du chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 4, verset 13. 2. Le ministère du Sauveur en parole et en œuvre apparaît à partir du chapitre 4, verset 14 jusqu'au chapitre 21, verset 30 et 8. 3. Le ministère de Jésus en Galilée est à partir du chapitre 4, verset 14 jusqu'au chapitre 9, verset 50. 4. Le ministère de Jésus sur le chemin de Jérusalem est à partir du chapitre 9, verset 51 jusqu'au chapitre 19, verset 20 et 7. 5. Le ministère de Jésus à Jérusalem est à partir du chapitre 19, verset 20 et 8 jusqu'au chapitre 21, verset 30 et 8. 6. La mort et la résurrection du Sauveur se trouvent au chapitre 21 et 22, verset 1 jusqu'au chapitre 24, verset 50 et 3. L'objectif du livre est de confirmer le fait historique de la vie de Jésus, dont le message universel montre le salut, la grande espérance de vivre au ciel pour toujours et éviter l'enfer. Le salut, disais-je, à tout ce qui tourne vers lui, la parole qui est esprit et vie. L'auteur du livre, c'est bien Luc le médecin. L'audience est Théophile, dont le nom veut dire « amoureux de Dieu ». Le livre de Luc a été probablement écrit à une époque qui date environ plus vieille que l'an 60 après Jésus-Christ, après la mort de Jésus. Les versets clés sont, je cite, « Jésus lui répondit, « Le salut est venu pour cette maison aujourd'hui, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car moi, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux comme lui qui étaient perdus. » Fin de citation. Chapitre 19, versets 9 à 10. Les particularités spéciales du livre de Luc. Luc attirait l'attention sur toutes les relations de Jésus avec les gens, notamment ceux qui étaient dans le besoin, et il a mis l'accent spécial sur le rôle des femmes. Les personnes et les relations clés. Jésus et ses disciples, Zacharie et Élisabeth, Marie, Marie-Madeleine et Jean-Baptiste. Jésus aime les exclus, ceux qui sont rejetés. Jésus donnait une attention spéciale aux pauvres, aux méprisés, aux meurtriers et aux pécheurs. Il n'a rejeté personne, il n'a ignoré personne. Aujourd'hui, personne n'est au-delà de la portée de son amour ou au-delà de sa capacité de sauver et de guérir, d'aider les gens, y compris nous tous. Pasteur Alamo, à l'exception de gens qui sont des démons. Sharon, il prend soin de nous sans tenir compte de ce que nous avons fait au passé. Pasteur Alamo, mais ceci n'est pas le cas après notre salut. Nous ne pouvons continuer à faire ce que nous avons fait au passé, sinon il n'y aura plus de pardon pour nous. Ensuite quoi ? Sharon, il veut cependant que nous puissions nous en repentir. Pasteur Alamo, d'accord, je vois que nous sommes arrivés au bout de notre temps, et nous allons continuer cette émission demain. Et donc soyez à l'écoute, et nous allons terminer l'introduction du livre de Luc, et très probablement aborder le premier chapitre, à moins que le Seigneur change le cours des choses et m'indique de lire un autre message de la littérature qu'il a dispensé à travers moi, en moi et à travers moi. Voilà, au revoir et à demain donc, ou n'importe quel autre jour, vous allez m'écouter à l'antenne. Je suis pasteur Tony Alamo, qui vous implore de ne plus être des ossements desséchés. Je vous prie de réciter la prière. Que le Seigneur vous guide et vous dirige dans l'esprit. Si vous aimeriez venir vous installer dans notre ministère, si vous voulez vraiment servir le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et toute votre force, venez, vous serez les bienvenus. Si l'Esprit vous dit de venir, alors venez. Amen. Sharon, amen. Pasteur Alamo, une fois de plus, je suis pasteur Tony Alamo. Que Dieu vous bénisse et gloire au Seigneur. Amen.